Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir.
Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une personne importante lors de ses visites touristiques à Paris, Jean-Charles Delobel.
Le projet Connaissez-vous sert à vous présenter des gens qui sont inspirants et en principe avec un problème de vision. Et parfois, on élargit, mais aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Nous sommes sur Paris et j'aimerais aussi vous référer à l'émission du 26 octobre dernier où nous avons reçu Johan Millaret, une émission qui a été très appréciée. Et c'est aussi grâce à lui que je suis en contact avec mon invité d'aujourd'hui, qui est Jean-Charles Delobel.
C'est moi.
Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Martin.
Oui, c'est bonjour. C'est bien que tu dises c'est moi. On va commencer, je vais te laisser le plus vite comme ça la parole. Évidemment, je veux pas faire différemment vu qu'on est à Paris. On aimerait ça te connaître. Est-ce que tout d'abord, tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle année tu es né?
Je suis tout à fait à l'aise pour le dire. Je suis né en 1987.
Oh là là,
je pense
d'accord.
Que nous devons avoir à peu près le même âge.
Toi et Johan?
Non, toi.
Moi et toi?
Oui.
C'est gentil, mais je suis plus vieux que ça.
Ah, t'es plus vieux que ça, d'accord.
Oh, oui, moi je suis né en 75.
Ah, t'es né en 75, d'accord.
Oui.
Et tu prépares un peu tes points retraite, là.
Alors, 1987.
Et oui.
À quel endroit?
À Saint-Martin-les-Boulognes, précisément. C'est une petite commune à côté de Boulogne-sur-Mer. Et Boulogne-sur-Mer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se situe dans le Pas-de-Calais.
Et Pas-de-Calais, ça se situe.
Alors le Pas-de-Calais, oui, c'est vrai, parce que oui, vous êtes effectivement dans du Canada, c'est peut-être un petit peu. Alors c'est le nord de la France.
D'accord.
Oui, oui.
Et là,
le Grand Nord.
Oui, d'accord. Et là, tu as vécu là longtemps?
Oh non, parce que j'ai dû y vivre à peu près une petite année, parce qu'après mes parents ont déménagé sur l'île, donc on est tous partis sur l'île.
Et voilà. Là, tu dis tes parents, est-ce que vous étiez une grosse famille? Est-ce que t'as frère et sœur?
Nous sommes deux.
Ah, d'accord.
Oui.
Donc, un frère, une sœur?
Un frère.
Plus âgé?
Plus jeune.
Plus jeune, d'accord. Et bon, le problème de vision, lui, il découle de quoi et de quand?
Alors, il découle de quoi et de quand? Très bonne question. Déjà, il découle du début, de 1987, du 23 mars 1987. Comme ça, au moins le mérite d'être précis.
C'est la date exacte de la naissance?
Voilà, c'est d'accord. Exactement ma date de naissance. Oui, oui, effectivement. Je ne peux pas me souvenir de quelque chose qui ait pu m'arriver à l'âge de 2 mois. Hein, même si on me dit que j'ai une bonne mémoire.
Ouais, puis là c'est très rare ceux qui peuvent prétendre ça, on s'entend.
Donc, ça découle de la naissance. Et alors, de quoi on n'a jamais vraiment, vraiment, vraiment su. Il paraîtrait que Tchernobyl n'est pas, en 1986, hein, je le rappelle, n'est pas passé la frontière française, mais il paraîtrait aussi que si. Est-ce que ça viendrait de là? C'est pas faute de s'être renseigné auprès de médecins, auprès de spécialistes, etc. On n'a jamais vraiment eu la confirmation de ça, finalement.
Ok, mais ça pourrait quand même avoir un lien.
Peut-être. Je ne l'affirme pas de 100%.
Mais sinon, ça veut dire qu'ils peuvent pas le préciser de source sûre. Là.
En tout cas, pas pour l'instant.
Et là, ça l'a donné quoi? Ça l'a donné une cécité totale ou?
Ça m'a donné une cécité. Alors oui, totale. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été opéré 2 fois, je crois. La deuxième fois, ça m'a donné un tout petit peu de vision à l'œil gauche, mais de toute façon, ça changeait pas parce que j'utilisais de toute façon la canne quoi qu'il arrive. Parce que ce petit reste visuel que j'avais, je sais pas si ça devait être moins d'un 20e, avec le temps, j'ai fini par le perdre un petit peu. Ou alors, du moins moins l'utiliser. Si je pense que j'en ai quand même perdu un petit peu.
D'accord.
Parce que je ne sais plus, par exemple, si une lumière est allumée, je ne sais pas exactement où elle est, et du coup l'éteindre. Et je ne vais pas forcément voir que la lumière est allumée, si c'était pour répondre à ta question.
Donc les gens des fois qui demandent là qu'on ferme les lumières quand ils viennent à la maison, c'est important.
Alors, cela dit, alors oui, mais cela dit, maintenant il y a une application sur l'iPhone, je pense que tu l'utilises aussi, une application qui s'appelle Light Detector. Donc ça, quand t'es quelque part, ça coûte vraiment trois fois rien, ça coûte 2,25€ si je me souviens bien. Et c'est une application qui te permet effectivement, si dans un endroit est vérifié que la lumière est éteinte, notamment quand t'es dans des endroits que tu connais pas, c'est très pratique.
D'accord. Mm-mm. C'est très technologique hein, quand même.
Ben plutôt oui. Oui.
On y reviendra parce que la technologie. Bon, oui. C'est sûr que c'est plus ça va, plus c'est présent dans les vies. Mm-hmm. Mais revenons un peu à l'enfance. Tu me parlais d'un déménagement. Est-ce que le déménagement est en lien avec ton handicap?
Non, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est-à-dire que je suis né comme ça, je suis né avec.
Oui. Mais est-ce que c'était comment j'imagine quand on est enfant, il y a un moment où on se rend compte qu'on est différent des autres enfants,
ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu?
C'est quelque chose, j'ai dû forcément le vivre et la mémoire se réserve parfois aussi le droit d'être un petit peu sélective. Hein, donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a poussé le plus possible à être autonome. Ça, je voulais le dire aussi. Après, oui, forcément, il y a dû y avoir un moment où j'ai dû m'en rendre compte. Là, ça date quand même. Et voilà, il y a des choses dont je ne me souviens pas. C'est pas qu'il y a des choses que je ne dévoilerai pas. C'est pas du tout le problème.
Non,
sincèrement, que je ne m'en souviens pas.
Ok. Et est-ce le souvenir que tu aurais, est-ce que ce serait à l'école ou...
Le souvenir que j'aurais, je sais que j'ai fait, avant de rentrer dans une école spécialisée, j'ai fait 2 années dans une école maternelle. Je pense que d'après ce qu'on a pu me dire, parce que il y a dû y avoir des hauts et des bas, hein, forcément, comme tout le monde. Après, effectivement, si on a décidé de m'inscrire dans cette école-là, c'était peut-être mieux pour moi, pour l'apprentissage pour l'apprentissage du braille et tutti quanti.
La maternelle, j'imagine que c'est un peu comme nous au Québec, c'est quoi, 5 ans?
C'est 3 ans, la maternelle.
3 ans?
Oui.
Ah, c'est tôt?
Tu remontes à loin, là.
Ah, là, 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 là. D'accord. Ouais, ouais. et là, après la maternelle, c'est combien? C'est 1 an, la maternelle?
La maternelle, c'est 3 ans en France.
3 ans?
Oui.
OK, mais pendant 3 ans de temps?
Oui, pendant 3 années.
À partir de l'âge?
À partir de l'âge de 3 ans, ça dure 3 ans.
Ah, oh, d'accord. OK. Oui, je voulais juste être sûr de pas être, d'accord.
Parce qu'au Canada, ça se passe comment chez vous?
C'est 1 an.
Ah, c'est 1 an. D'accord.
À partir de 5 ans.
Ah oui, d'accord.
Et là, si on est né, admettons, dépassé le 30 septembre, mais là, on commence presque à 6 ans.
D'accord.
On perd une année de...
D'accord.
Voilà. Et ça a été mon cas, d'ailleurs.
D'accord.
OK. Donc, maternelle. Ensuite, école spécialisée, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai fini la maternelle dans une école spécialisée où je resterai là à peu près jusqu'en 5e.
Et là, tu parlais de l'apprentissage du braille, donc ils ont commencé tout de suite l'apprentissage du braille.
Oui, j'ai dû commencer
à la maternelle.
Je l'ai commencé. J'avais quoi? Oui, 6-7 ans, je pense, quand j'ai dû commencer à apprendre le braille. Ouais, 6 ans.
Mm-hmm.
Comme en France, quand tu arrives au CP, tu apprends à lire à peu près cet âge-là. Moi, je pense que j'ai dû commencer à apprendre le braille à peu près à ce moment-là, ouais.
Donc, en même temps que les autres ont appris,
c'est ça. Peut-être le braille, effectivement, qui est un petit peu complexe, hein, ça tu connais. Donc, forcément, peut-être que j'ai dû mettre un petit peu plus de temps, je crois. Quoique, finalement, je crois que je m'y suis mis vite, finalement, quand j'y pense.
D'accord. Et est-ce que, suite à ça, est-ce que l'école adaptée, c'était intéressant pour toi? Est-ce que
ça m'a appris? Ça m'a appris, hein. Je sais pas comment. Là, tu me reparles de choses qui datent d'il y a tellement longtemps.
On se replonge, hein, dans les.
On se replonge un peu, ouais. Oui. De toute façon, il faut toujours en tirer le plus de positif possible.
Et socialement, est-ce que c'était les amis, les activités, c'était bien? Est-ce que tu étais du genre à te faire des amis facilement?
Moins que maintenant, je t'ai peut-être parfois, je sais pas comment expliquer ça. J'étais déjà, il a fallu, j'ai mis, je pense avoir mis quand même du temps enfin, je sais pas comment t'expliquer ça en fait. C'est très très complexe, finalement à expliquer. C'est vrai que c'est très très enrichissant d'être avec des personnes de milieux différents. Maintenant, moi, j'avais quand même la chance de pouvoir partir en vacances, de pouvoir faire des activités, ce que quand même quelques autres qui étaient à l'école avec moi n'avaient pas forcément la chance de faire. Et ça, je pense que ça a été moi, je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre que je me disais je résume un peu grossièrement. Pourquoi est-ce qu'ils font pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas forcément faire toutes ces activités alors que nous on a la chance de pouvoir les faire? Ça je pense ça m'a peut-être perturbé un peu avec
toi. Tu voyais une différence un peu entre toi et les autres?
Pas les autres, parce que et peut-être quelques autres, effectivement, oui, c'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. Il y avait j'avais encore une fois la chance de pouvoir pratiquer effectivement certaines activités que et du coup c'est vrai que forcément quand t'es gamin t'aimes bien échanger un petit peu sur ce que tu fais etc. C'est vrai que là il y a peut-être un moment où j'avais du mal à comprendre pourquoi ça.
Oui.
Voilà.
Pourquoi si toute cette et vous étiez beaucoup d'élèves des grosses classes?
On n'était pas des grosses classes en fait, on était des classes de je sais pas 5 ou 6.
Oh là là,
7.
OK. Donc vraiment pas beaucoup.
6 ou 7, oui, pas 5 à 6 ou 7 comme dans les sardines de Patrick Sébastien hein, c'est ça, on était 6 ou 7. C'était pas terrible, d'accord.
Et là
voilà en gros.
Oui. Et là, tu me disais, je sais pas pourquoi j'ai pas tendance à vouloir dire vous. Là, je...
T'as le droit de me tutoyer. Hein,
je veux pas m'embarquer.
T'es plus vieux que moi.
Oui, je veux pas m'embarquer dans le vouvoiement. Genre.
Nous, les non-voyants, on vous voit pas en plus.
Non.
Bon, d'accord.
On vous voit. Ah, quelle belle blague. J'ai pas compris tout de suite. Ça m'a pris comme une fraction de seconde. On me l'avait jamais fait.
Une petite fraction de seconde, on te l'avait jamais fait. Ben, moi, tu te souviendras. Oui. Il y en a un qui t'a fait, c'est moi.
Voilà. C'est bien gravé.
Voilà.
Tu me disais jusqu'en cinquième, l'école adaptée.
Exactement. Alors, en fait, j'étais dans une autre école après. Ça a été à Paris. Et là, en fait, c'est vraiment, enfin, j'étais prêt, si tu veux. L'internat, c'est quelque chose où justement on avait pu préparer. Comme l'école à Lille, elle était près de chez moi, la question se posait pas. Et quand il a été question que j'aille à Paris, là on a vraiment, comme j'en connais un certain nombre d'autres, à qui on a plus ou moins l'internat a été imposé à l'âge de 5 ou 6 ans. Ce qui est quand même très très,
très
tôt.
Jeune. Hein.
Mm-hmm. Ce qui est très très jeune, effectivement. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu à vivre ça. Donc, j'ai commencé l'internat à partir de 14 ans. Donc là, j'étais vraiment, j'y étais vraiment prêt. C'est pas.
Ça a pas été un aussi non. gros choc, là.
Non, que... ça a pas été un gros choc parce que finalement, je partais quand même pas mal sans mes parents, en colonie de vacances ou alors chez la famille. Donc, si tu veux, ou chez des amis. Donc, si tu veux, ça m'a pas, bien sûr, il y a des moments où ça a peut-être pu me peser, mais si tu veux, vraiment les débuts de l'internat n'ont vraiment pas été un choc pour moi.
Ok, d'accord. Et là, à l'internat, ça se passait comment? C'était les cours
On avait les cours la journée, puis après, le soir, c'était... On avait l'étude, déjà, hein, jusqu'à... Les cours commençaient le matin, on avait l'étude le soir. Ça durait à peu près une heure et demie, oui, entre 17h30 et 19h. Après, on allait manger, on avait les heures de repas, et puis après, on avait une heure, selon la classe dans laquelle tu étais, où il fallait monter au dortoir. Je crois que c'était 9h30 pour ceux qui étaient en troisième, 9h15 pour ceux qui étaient en quatrième. Bon, ça, c'est du détail. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, et 22h pour quand, dès que t'étais au second cycle, donc que tu passais la seconde. Voilà, un petit peu, en gros.
Ça donnait pas beaucoup de place pour des temps libres.
Alors, ça donnait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des activités sportives qui étaient proposées, donc il pouvait y avoir des aménagements. Je me souviens, moi, en l'occurrence, que je faisais de l'escalade tous les lundis soirs.
Ah, de l'escalade?
De l'escalade, ouais.
D'accord. Absolument. Et c'était compliqué, ça, de l'escalade?
Non, j'en avais déjà fait un petit peu à Lille, et moi, je trouvais ça sympa, l'escalade. Je sais pas si toi, t'as déjà eu l'occasion d'en faire, mais il suffit de toucher le mur pour voir où sont les prises. Alors, il y a des murs qui sont peut-être un petit peu plus compliqués que d'autres, mais moi, j'en garde de très bons souvenirs.
D'accord. Et bon, là, la fin de semaine, c'était le retour dans ce temps-là chez les parents.
C'est ça, oui, c'était le retour à Lille tous les vendredis. Pardon, c'était le retour tous les vendredis. Et puis, ça a été parfois un peu dur de partir le dimanche soir, même si c'était à 20h. C'est vrai qu'effectivement, fallait être là lundi matin à 8h pour le premier cours. Donc,
la coupure là qui se faisait chaque dimanche.
Ça allait, oui, forcément. Il y a des fois où ça a pu me au début, ça m'a fait drôle, je pense, de partir le dimanche soir. Au début, ça m'a peut-être fait drôle, mais en fait, ça a été finalement.
OK.
Ouais.
Et on parlait de l'apprentissage du braille.
Ouais.
Est-ce que le braille, tu l'as utilisé tout le long de tes études?
De ma scolarité, oui. Parce que de toute façon, dans les années 90, il y avait pas autant de... Je pense que t'es bien placé pour le savoir aussi. Il y avait pas autant de
support informatique.
De support informatique, c'est ça, de support informatisé. Je sais pas. Faudrait d'ailleurs que je me renseigne un peu comment les élèves apprennent, quelle est l'approche maintenant d'apprentissage, puisque vraiment les temps ont changé, hein, depuis toutes ces années. Donc je me demande, il faudrait qu'à l'occasion que j'interroge un peu à droite à gauche comment se fait un petit peu l'apprentissage aujourd'hui. C'est vrai que ça m'intéresserait de savoir.
Mais pour toi, ça a été plus le braille, plus quand on parle du braille, donc c'est le braille papier, là, c'est des
braille papier, des, ouais, des, oui, des absolument documents. Ouais, j'ai une machine Perkins là, qui est derrière toi, que ça fait une dizaine d'années que j'ai pas remis la main dessus, mais que je préfère quand même conserver. Mais j'ai toujours la fameuse machine Perkins, oui, qui est rangée dans le carton qui se trouve derrière toi.
D'accord, ouais, c'est quand même un hasard que je sois aussi près de cette machine.
Aussi près de cette machine, effectivement, oui.
C'était pas prévu.
Ouais.
Et bon. Et là, comment ça se passait? Est-ce que tu aimais ça, l'école? Est-ce que tu aimais ça, l'étude? Est-ce que tu...
L'école, tu parles quand j'étais plutôt au collège, lycée, ou en primaire, ou au collège? Qu'est-ce que tu...
En général, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a changé ou...
Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours été, j'ai toujours pu passer les gagnes. J'ai redoublé une fois quand j'étais gamin, mais il y a une classe que j'ai redoublée, mais sinon j'ai jamais, surtout quand j'étais à Paris, j'avais les notes qu'il fallait pour pouvoir passer. J'avais d'ailleurs un directeur, pour la petite anecdote, j'avais un directeur des enseignements qui avait pris sa retraite et qui m'avait dit: je sais que ton bac tu l'auras peut-être un petit peu juste, mais tu l'auras. Je l'ai croisé quelques années après et je lui ai dit: monsieur, vous aviez raison, parce qu'effectivement j'ai eu mon bac avec 10. Ouais, il avait effectivement...
Et le 10, ça, c'est quoi exactement, 10?
10 sur 20, pardon.
Ah, 10 sur 20.
Avec 10 sur 20, donc qui est la moyenne pour avoir l'examen. Et c'était... J'ai eu 10 tout pile, donc je pense que j'ai dû être pêché au niveau des commissions. Mais en tout cas, effectivement, j'ai toujours été un peu juste, mais finalement, je crois que je m'en suis sorti.
Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que les études, c'était aussi un peu... Au minimum, dans
le
sens.
Je bossais comme où il y a des moments où il fallait bosser un peu plus, donc j'essayais de m'y mettre un peu plus. Maintenant, bon.
Pas toujours de façon constante.
Ça dépendait des matières. Hein. On a tous des points forts et des points faibles.
Oui, ben parlons-en. C'était quoi le point fort, le point faible?
Mes points forts, c'était surtout les matières littéraires, français, l'anglais, espagnol aussi. Mes points faibles, c'était surtout les matières scientifiques, les maths. Je détestais ça, j'aimais pas ça du tout. Voilà, j'avais un arrière-grand-père qui était professeur de mathématiques.
Ah, pour vrai?
Et oui. Alors, j'ai eu 6 sur 20, donc, en maths au bac. Je me suis dit, le pauvre, s'il avait vu ça.
Tu n'avais pas comme eu cette... ça t'avait pas été transmis.
Non, ça m'a pas été transmis, non. Non.
D'accord. Non. Et là, bon, là, moi, je sais plus, là, après le bac, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut décider un peu ce qui va se...
Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après le bac, là, c'est quand même beaucoup plus frais dans ma mémoire que que les questions que tu m'as posées concernant les années 90, auxquelles je t'avoue que je m'attendais pas forcément. Après le bac.
Mais c'est pas grave, hein, la majorité des gens, et puis j'interroge des gens qui ont 60, 70 ans, ils s'en souviennent encore moins de leur enfance.
Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Ah oui, d'accord, tu as déjà interrogé des gens de cet âge-là.
80 le maximum.
Ah oui, attention, t'es pas loin, toi.
Hein. Je pense que les micros vont se fermer, là.
Ah ouais. Non, ça tu ne coupes pas ça au montage quand même. Non, ah ben non, tu peux pas faire ça.
Non, on fera pas ça. Bon. Alors, mais revenons
au
mouton, hein. Ouais. Parce que bon, c'est ça. Là où il faut commencer à penser à ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse.
C'est pas évident. Alors là, c'est pas évident du tout. J'étais sur des salons d'étudiants. Finalement, je me suis trouvé à faire une première année d'informatique. Développement informatique, c'est pas ce qui m'a botté, le plus. Et finalement, ça s'est pas révélé concluant pour la formation développeur d'application. J'ai pris une année un peu sabbatique où j'ai donné notamment des cours de bureautique dans une association. Et j'ai fait donc cette année-là un bilan de compétences. Et après, j'ai intégré, j'ai eu le temps donc de chercher une école, une entreprise, et j'ai pu intégrer un BTS en alternance. Et cette fois-ci, ça a été en milieu ordinaire, je le précise.
D'accord. Mm-mm. Mais là, on parle d'informatique, mais puis tantôt, oui. On parlait que pendant les études, c'était pas encore vraiment... Mais il y en avait moins, tout ça. C'est arrivé quand, pour toi, l'informatique?
L'informatique est arrivée déjà quand j'étais à Lille, quand j'étais en classe de CM et en classe de 6e, je commençais à faire ce qu'on appelle de la dactylo. Je pense que tu sais ce que c'est.
Oui.
Voilà, donc là, j'ai commencé à faire de la dactylo. Après, on avait des cours... Quand j'étais à Paris, après, ça a été... une heure de cours d'informatique par semaine, notamment pour apprendre à utiliser des logiciels de traitement de texte, des bases sur les tableurs comme Excel par exemple. Et qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? Si les mails aussi, c'est vrai. Et après, bon, ben, on avait en fait dans tout mon lycée, donc seconde, première, terminale, j'ai eu. Et à partir de la troisième, en fait, t'avais déjà, ils te prêtaient un PC portable pendant toute l'année.
Ok.
Donc là, effectivement, donc ça c'est vraiment à partir de là que ça, qu'on peut dire que ça a commencé vraiment.
Il y a eu comme une étincelle un peu là, intérêt.
Oui.
D'accord. Et là, tu me parlais de ton premier, comment tu as appelé ça là, que tu as fait au régulier, je le cherche, je le retrouverai pas là. Tu disais t'avais pris une année sabbatique. Ensuite...
Oui, parce que effectivement, j'avais pas, j'avais pas forcément préparé l'après année d'informatique. Au départ, je pensais que j'allais peut-être quand même pouvoir continuer. Effectivement, ça s'était pas révélé concluant. Donc, j'ai pris effectivement cette année sabbatique pour, encore une fois, comme je te disais, donner des cours de bureautique dans une association et pour aussi et surtout faire un bilan de compétences. À partir de là, j'ai pu trouver ce qu'on appelle un centre de formation pour apprentis, hein, où en France on appelle ça un CFA, pour pouvoir justement poursuivre ses études et les faire en alternance. Donc j'avais trouvé une entreprise aussi qui était à l'aéroport de Paris, hein, on peut la nommer, je pense.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Je voyais des avions passer sous mes fenêtres. C'est vrai. C'est vrai qu'on les entendait.
C'est oui, mais c'est début, parce que c'est dur à masser.
C'est vrai qu'au début, quand tu vois des gens, quand tous les matins tu te trinque-balles dans l'aéroport pour aller d'un endroit à l'autre et que tu vois une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine de personnes qui arrivent avec là avec des valises qui font plus de bruit les unes que les autres. Ah, c'est sûr qu'au début, ça fait drôle. Mais c'est vrai que finalement, ça a été une très belle expérience et j'ai vraiment rencontré des gens formidables.
D'accord.
Oui.
Et ça consistait en quoi exactement
le... Alors le BTS en France, donc on appelle, c'était un BTS assistant gestion PME PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Et bon, bah là, j'étais effectivement dans une grande entreprise, mais j'étais dans un service où on s'occupait notamment des riverains. Des aéroports donc qui subissent des nuisances sonores, hein, bah ce que ça peut engendrer, et nous on avait une action pour les riverains qui étaient demandeurs d'emploi.
D'accord. Et ça a duré combien de temps?
Ça a duré 2 ans. Ça,
2 ans?
Oui,
d'accord. Après il s'est passé quoi?
Après il s'est passé what's happened, point d'interrogation.
Parce que j'imagine quand le projet se termine.
Bon. Quand le projet se termine et que t'as ton diplôme, là par contre il faut préparer l'après. Donc là effectivement j'ai quand même pu l'anticiper. J'ai continué sur une licence en ressources humaines que j'ai fait en alternance aussi. Alors pas chez Aéroport de Paris cette fois-ci, dans une entreprise qui s'appelle Radio France. Si en France on t'a déjà fait écouter France Info,
oui.
Ce que j'écoute tous les matins, je raconte un petit peu ma vie. Hein. France Info, par exemple, fait partie de Radio France.
D'accord.
Voilà.
Et là, tu faisais quoi?
Donc là, c'était une licence en ressources humaines. Donc là, j'étais notamment rattaché à la mission handicap de Radio France.
Ah, ok, parce que eux, il y avait une politique.
Voilà, il y a toujours une politique, toujours, effectivement, oui. Par rapport à l'insertion des personnes avec une RQTH en France, qu'on appelle une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, je le précise.
Et est-ce que comment ça se passe? On peut en parler. Je m'attendais pas nécessairement à en parler.
Raconte à tonton, vas-y.
Est-ce que les handicapés visuels sont bien? Est-ce qu'ils sont bien intégrés au milieu du travail? Est-ce que
alors là, j'ai envie de te dire, c'est du donnant donnant. C'est-à-dire que toi, c'est à toi de faire le. Il doit y avoir un effort entre guillemets de part et d'autre. Alors, moi, je vais surtout commencer par l'aménagement de poste. En fait, les aménagements de poste de personnes déficientes visuelles sont assez souvent méconnus. Donc là, c'est vrai que ça demande effectivement beaucoup d'explications et beaucoup de pédagogie.
Mais tu dis souvent méconnu, mais est-ce que souvent c'est réalisable de faire des adaptations de poste qui sont intéressantes? Et je pose la question parce qu'au Québec, on a souvent des employeurs qui sont intéressés à engager des personnes non-voyantes, mais c'est au niveau justement de l'adaptation du poste que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne pas bien. C'est souvent quelque chose qu'on se fait dire. Est-ce que...
Après, ça dépend. Je pense que là, c'est vraiment... Les mentalités ont évolué. On n'est pas encore à du 100%, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des adaptations intéressantes. Il suffit que... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es en entretien d'embauche, on n'a pas le droit de te demander quel est ton handicap. Je dis ça parce qu'il y a aussi des handicaps qui sont invisibles, hein. Là, j'élargis un petit peu en dehors de la déficience visuelle. Maintenant, en ce qui concerne un handicap, s'il est visible, la seule question qu'on peut te poser, c'est de dire quelles sont les adaptations de poste dont tu as besoin.
Ça signifie quoi? Ça veut dire que si si la personne non-voyante applique sur un poste, elle va pas le dire. Et
Il vaut mieux le noter dans ta lettre de motivation. Si ça, c'est quand même mieux de le faire.
Ok, quand même.
Mais moi, je l'ai pas noté pour ma part. Hein, je l'ai pas noté sur mon curriculum vitae, mais sur ma lettre de motivation, je le note.
Donc, quand tu arrives à l'entrevue, ils le savent quand même. Là.
Absolument. Le recruteur est au courant. Et comme dirait l'autre, un homme averti en vaut deux.
D'accord.
Vous connaissez pas cette expression?
Bien sûr, bien sûr. Donc, tu disais, c'est donnant-donnant, donc c'est aussi beaucoup à la...
Et après, quand tu dois t'adapter, après, quand t'es intégré dans l'entreprise, effectivement, après, pour t'adapter à l'ambiance, enfin, au local où tu es, à la façon de travailler, effectivement, il doit y avoir donnant-donnant.
Donc, ça fonctionne pas. La personne doit s'attendre à beaucoup, s'expliquer, se faire valoir, là, faire valoir que qu'elle sera capable de faire l'emploi, puis c'est un peu comme ça, là, dans le sens que personne va aller la chercher chez elle pour dire viens travailler chez nous, là.
Non, c'est ça. C'est à toi de postuler à des offres, c'est à toi aussi de te rendre sur les forums, et après effectivement pendant la procédure d'embauche, c'est aussi à toi de parler des adaptations de postes dont tu as besoin. Hein, donc connaître, de savoir que ça peut être si t'as une entreprise avec une mission handicap, en général t'auras pas le problème. Maintenant, si t'as une entreprise où il y en a pas, où c'est vraiment il y a une référente handicap, mais qui a ce dossier-là parmi 50 autres problématiques ressources RH, à partir de là, de toute façon, là quand il y a pas de mission handicap à proprement parler, c'est la GFIP qui finance le matériel. Donc en général, maintenant, les personnes en ressources humaines sont plutôt au fait de ça, j'ai envie de dire. Alors, il y en a encore bien qui méconnaissent, mais je pense que ça, on a avancé quand même un peu.
Et il y en a beaucoup quand même des entreprises qui disposent de...
De missions handicap?
Oui.
Les grands groupes, en général, oui. Oui.
D'accord.
La mienne n'en dispose pas. Mais voilà, là, ça a été le financement GFIP, là, pour le coup.
Parce que là, ce poste-là, tu l'as occupé combien de temps? À Radio France?
À Radio France, je l'ai occupé un an.
Ok, d'accord.
Là, c'était vraiment un contrat à durée déterminée. Donc, je savais que malheureusement, je serais pas forcément embauché derrière. Mais bon.
Et d'accord. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres emplois?
Parce que j'ai été effectivement en recherche d'emploi, en avance dans le temps. Et je me retrouve aujourd'hui. Alors, je fais absolument pas le métier qui correspond à mes études. Je voulais déjà travailler, mettre le pied dans l'entreprise pour pourquoi pas ensuite évoluer en interne. Bon, pour l'instant, ça s'avère peut-être un peu plus compliqué. Mais j'ai un ami qui travaillait pour un bailleur social, un de mes meilleurs amis qui travaillait pour un bailleur social, et un jour, comme ça, il a quitté son poste il y a quelques années, et puis un jour, comme ça, je lui dis, et au fait, tu crois que je pourrais pas postuler dans ce genre de poste? Enfin, oui, j'y ai pas pensé. Donc, il a appelé le contact qu'il avait là-bas. Et là, à partir de là, c'est vrai que ça a été assez vite parce que j'ai envoyé toute ma candidature. Et un mois et demi après, j'étais embauché. Hein. Donc, tu vois, comme quoi, aujourd'hui, moralité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'emplois se trouvent par le réseau.
Et par hasard, est-ce que tu sais un peu... Là, je pose ça vraiment en l'air comme ça, là. Mais le pourcentage de personnes handicapées visuelles qui travaillent, qui réussissent.
Alors là, le pourcentage de personnes handicapées visuelles qui travaillent, c'est ça ta question?
Oui. Est-ce que
j'ai jamais eu vraiment d'éclaircissement là-dessus. D'une manière ou d'une autre, par contre, ce que je peux te dire par rapport au handicap en général, donc là encore une fois j'élargis, il a été avéré que 80% des personnes qui étaient en situation de handicap n'avaient pas, ou 85% n'avaient pas le niveau bac. Ça, c'est ce que je peux te dire.
D'accord. Donc c'est plus difficile de d'aspirer
à... il y a des certains handicaps effectivement qui sont méconnus et de fait mal compris, si tu veux.
D'accord. Là, on parle beaucoup de travail, puis c'est sûr que le travail, on s'entend que c'est très important dans une vie, mais au-delà du travail, il y a forcément des temps libres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut meubler ces temps libres? Et là, je vous rappelle qu'on est sur Paris. À Paris, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand...
Beaucoup de choses à faire à Paris. Et t'as dit que le travail, c'est très important dans la vie. Moi, je vais juste apporter un petit rectificatif. Je pense que c'est, que ce soit le travail, que ce soit la vie sociale, pour moi, les l'un et l'autre sont tout aussi importants. C'est même, c'est bien. Bon, je vois pour que bon, ça change un petit peu de travail, mais en tout cas, c'est enfin, le plus important, c'est aussi ce qu'il y a à côté. Moi, je me vois mal commencer, je vois mal commencer le travail à, mettons, à 8 heures et finir à 21 heures ou 22 heures comme le font certaines personnes. Et ça, je respecte tout à fait, mais c'est pas dans ma philosophie.
Nécessaire que ce soit autant.
Voilà, que ce soit autant. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment, c'est trouver un équilibre entre tout ce qui concerne la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, tu me demandais, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse.
Mais c'est important parce que, effectivement, il faut avoir un petit peu de sous, il faut avoir des amis, il faut pas s'ennuyer.
Alors, c'est vrai que moi, à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je suis aussi investi dans l'associatif, notamment dans une association qui s'appelle le Rotaract. Donc le Rotaract, qui est la branche jeune du Rotary. Hein. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Non.
Je sais que ça existe au Canada aussi, hein, mais dans le monde entier d'ailleurs, pas qu'en France, hein, pas que dans les pays francophones. Donc l'idée, je vais te la faire courte. Hein. Le Rotaract donc est un club service. Donc tu as différents clubs dans différentes villes en France et dans le monde. Et il y a donc différentes actions. La devise étant l'amitié par le service. Il y a différentes actions donc pour différentes catégories de personnes. T'as même des clubs Rotary, j'ai su qu'il y avait financé des chiens guides d'aveugles. T'as nous notre club intervient là en ce moment surtout pour une association qui s'appelle Caméléon, qui vient en aide à des jeunes filles victimes de violences sexuelles aux Philippines, tu vois. Donc c'est très très varié,
très varié, très vaste.
Et voilà, donc ça n'a pas forcément de rapport direct avec la déficience visuelle, hein. Donc ça fait effectivement partie de mes activités. Je fais aussi partie d'une autre association qui, elle, travaille sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit.
Hein, donc, tout handicap confondu.
Donc t'as des ateliers sur l'insertion professionnelle, t'as des ateliers sport, pour te faire court, t'as des ateliers sur différents types de handicaps qui sont méconnus, les handicaps invisibles ou même les handicaps psychiques, hein, qui peuvent être invisibles également, il faut le préciser. Je pratique aussi diverses activités sportives, donc notamment le shodan, qui est une sorte de tennis de table adapté.
Et j'ai eu la chance de l'essayer.
Tu l'as essayé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ma première journée à Toulouse. Oui, j'ai essayé. Et franchement, j'ai aimé. Hein.
C'est vraiment un sport que j'aime bien. C'est un sport qui demande de la concentration, mais moi franchement j'aime bien pratiquer ce sport.
Oui, parce que effectivement au début c'est un peu impressionnant là, faut être un peu partout, écouter partout, puis essayer de bloquer les tirs de partout. C'est quelque chose.
C'est ça. Et donc ça fait partie donc de mes activités. Je pratique aussi la randonnée régulièrement. Donc j'ai un club avec lequel je pratique donc la randonnée en région parisienne, et puis bon bah ça m'arrive aussi d'aller à la montagne pour faire aussi quelques randonnées.
C'est ça, j'allais demander, vous avez des beaux endroits quand même pour faire de la randonnée.
Il suffit de t'éloigner de 25, 30, 40 kilomètres, et puis là tu arrives dans la campagne et tu commences à arriver sur des endroits où il y a moins d'habitation, et là c'est plus intéressant pour faire de la randonnée.
Parce que c'est sûr qu'à Paris même, ça bouge beaucoup.
Oui, bah dans Paris même, c'est vrai que pour faire des randonnées qui sont intéressantes, il faut il faut s'en éloigner, à moins que tu veuilles visiter Paris. Et là, c'est différent. Hein, c'est...
Mais on peut parler aussi du côté visite, parce que, bon, toi, ça fait un certain temps que t'es ici.
Oui.
Mais quand même, moi, ce que je remarque, puis là, je rabaisse pas le Canada ni le Québec, je viens de là.
Oui.
Mais vous êtes très bien desservi ici, là. Je veux dire, vous avez... Oui. Des choses intéressantes au niveau de l'accessibilité.
Oui.
Au...
C'est
quand même très... C'est accueillant de venir ici, là, parce qu'on on se sent quand même moins... on se sent pas trop laissé à nous-mêmes. Là.
Je suis dans un quartier où, effectivement, j'ai la chance d'être bien desservi. Hein. D'ailleurs, on se trouve en direct, je le dis pour les auditeurs, on se trouve en direct chez moi, hein, là, directement. Hein. On n'a pas encore préparé l'apéro, ça viendra après.
Ben oui, mais le chez toi que dont tu parles, c'est que c'est adapté là. C'est moi, c'est ce que je t'ai dit tantôt. En arrivant, je voyais du braille sur les murs. Je pense qu'il y avait le quartier. Ça se peut-tu? Il y avait comme une réplique du quartier. Ou...
Il y a une. Alors oui, il y a un plan effectivement du quartier. Je l'ai très très peu de fois regardé. Moi, je me suis surtout renseigné. Après, voilà, là, c'est vrai que c'est un immeuble qui est à côté d'un hôpital qui est très connu pour les maladies à basse vision, qui est l'hôpital des 15-20. On appelle l'hôpital des 15-20.
Ah,
donc
d'accord.
Là, en fait, l'hôpital des 15-20, si tu tournes un petit peu ta tête, tu le vois de la fenêtre qui se trouve sur ta droite.
Ah oui, puis vous avez des belles fenêtres, en plus, là, c'est lumineux.
Ils les ont refait, effectivement, il n'y a pas très très longtemps. Donc, voilà. Mais après, je l'explique aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai pu accéder à, effectivement, ce logement-là. Maintenant, il y a effectivement d'autres, tous les non-voyants de Paris ne résident pas dans cette résidence et on n'est pas, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est-à-dire qu'il faut pas faire que de l'entre-soi. Ça, c'est important, je voulais le dire aussi.
Mais je trouve ça important que tu le précises parce que tu me disais que tu t'impliquais aussi dans un organisme qui était pas en lien. Donc, c'est bien des fois de se trouver des occupations puis des intérêts ailleurs. Est-ce que c'est plus compliqué de s'intégrer dans des organismes comme ça?
C'est pas après c'est une question de personne, j'ai envie de te dire.
Faut se faire valoir un peu comme pour l'emploi.
Parfois ouais, faut se faire ouais, bah parfois effectivement, faut surtout, et ça c'est important, faut surtout parce que t'as aussi pas mal de personnes on va dire valides, j'aime pas cette expression.
Mais on se comprend,
comme tu dis. J'adore votre accent, hein, sans rien.
Bah nous aussi, on aime votre accent.
Et donc c'est ça. Donc j'étais en train de dire qu'effectivement, après, il y a des personnes valides qui vont plus facilement peut-être t'expliquer les choses. Il faut que toi, tu sois dans le questionnement. Déjà, toi, tu questionnes sur l'environnement dans lequel on est. Sur après, bon bah, il faut surtout être. Dire que bon bah voilà, forcément tu l'as vécu aussi, il y a des maladresses qui peuvent être commises par des personnes qui ne veulent pas forcément là je parle pas dans les transports en commun, là je parle vraiment quand t'es dans là bah, par exemple quand je suis dans des soirées au Rotaract, parfois oui bah il faut expliquer, dire bah tu vois en fait si tu m'avais dit ça comme ça j'aurais pu comprendre parce que j'aurais pu comprendre peut-être plus vite ou être plus réactif, tu vois. Il faut vraiment parce que les gens savent pas. Alors t'as ceux qui savent pas et qui ont envie de savoir, et t'as ceux qui pensent déjà et déjà savoir. Et là c'est vrai que ça demande un travail, mais c'est vrai qu'en même temps j'ai envie de te dire ce travail, si tu ne veux pas rester dans l'entre-soi, c'est un travail qu'il faut faire. Que je trouve important, qu'il faut, enfin, voilà, ça fait partie du, t'as certains handicaps pour lesquels pour lequel le travail ne sera pas le même, bah, pour un handicap visuel, le travail, bah, c'est celui-ci, hein, de savoir expliquer. Alors oui, c'est sûr qu'après, on est des êtres humains, donc, ben, voilà, quoi, ça, ça peut arriver malheureusement de s'énerver parfois, mais en fait non, c'est faut vraiment partir quand je suis dans, notamment quand je suis dans ce milieu-là, déjà ça m'est très très rarement arrivé d'une part, et d'autre part voilà, faut montrer que tu sais faire ci, faut montrer que tu sais faire ça. Ouais, avec des fois c'est un peu chiant, mais bon, voilà, ça fait partie du boulot.
Et les gens sont curieux aussi. Ils
posent les gens sont curieux. Alors il y a des questions qui sont meilleures que d'autres. Hein. Les questions que je trouve moi en tout cas les plus pertinentes, c'est savoir comment est-ce que tu travailles. Bah tiens, tu nous réponds sur Facebook. Comment tu fais ça? Ça c'est super à expliquer ça, parce qu'au moins tu leur expliques la façon que t'as de travailler. À la limite, t'as ton téléphone, tu vois, tu utilises un iPhone, donc aujourd'hui la technologie, on en parlait tout à l'heure, te permet quand même de faire un certain nombre de choses qui sont similaires à ce que peut faire une personne ordinaire, on va plutôt dire ça comme ça. Et là bon bah ouais, quand tu montres ça, comment tu fais, et surtout que bah quand t'as l'habitude, t'as des synthèses, toi tu dois l'avoir aussi, des synthèses qui parlent super vite, donc là des fois les gens échangent.
Oui, mais qu'on ajuste à notre vitesse, hein, mais pour eux c'est trop vite.
Et largement, hein. Moi je dis mais attends, une fois je l'avais fait comme ça, j'avais dit tiens, fais voir ton iPhone, je vais t'activer la synthèse, et puis bon bah j'avais dû pousser un petit peu le bouchon, je dis attends, je vais te l'accélérer maintenant. Et du coup c'est bon, tu peux m'enlever ça s'il te plaît. Voilà, en tout cas, comment est-ce que ça permet de c'est sûr que des fois il faut s'expliquer, des fois tu te dis bon, j'aimerais voir une pause de, je le fais pas toute la soirée, Dieu merci, hein, mais c'est vrai qu'effectivement quand t'as des personnes qui effectivement posent des questions, je pense que c'est bien aussi de montrer que tu es de montrer que t'es à l'écoute. Alors après il y a des questions cons, celle-là il y a tout à fait possibilité de dire bon ben ouais, bon ça c'est de faire comprendre que c'est une question bête, mais sans le dire directement.
Mais nous, je sais qu'au Québec, on dit souvent, il n'y a pas de mauvaise question, mais
il n'y a pas de mauvaise question, hein. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça, hein. À la fin d'une soirée, c'est une gamine qui devait avoir, elle rentrait dans l'association, hein, elle avait à peine 18 ans, donc bon, bah quand t'as cet âge-là, t'es sûr de beaucoup de choses, t'es sûr de... Et puis elle me dit, mais en fait, quand on est aveugle et qu'on est bourré, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai pas trop su quoi répondre, et quelques minutes après, je me suis dit, en fait, j'aurais dû lui dire, bah écoute, viens, tu sais quoi? Viens, gamine, tu sais quoi? On va le faire, mais je pense que c'est toi qui iras te coucher avant moi. J'ai voulu lui répondre ça, j'y ai pas pensé sur la minute ou les 2 minutes qui ont suivi, et voilà, après j'y ai pensé, je me suis dit ah ouais,
un peu trop tard,
prendre un petit peu la décision. Ça n'empêche pas qu'effectivement le jour où ça se reproduit, je m'en rappellerai.
Voilà. Je voulais revenir sur l'endroit où tu habites là.
Ouais,
c'est un immeuble uniquement consacré aux non-voyants.
Alors c'est un immeuble où effectivement, si tu veux, t'as un dossier à constituer. T'as beaucoup effectivement de non-voyants, de malvoyants aussi, et tu as aussi quelques logements de fonction, parce que tu as des personnes qui peuvent être de garde à l'hôpital, donc ils doivent s'y rendre au plus vite si besoin. Donc tu as effectivement quelques personnes qui ont des logements de fonction ici.
D'accord. Et est-ce qu'il existe plusieurs immeubles comme ça ici, ou c'est le seul?
Là, t'as un immeuble ici, et puis t'en as un autre qui lui par contre est destiné au personnel. T'as des personnels qui ont des logements de fonction ici.
D'accord.
Donc ça c'est un immeuble qui est un petit peu plus loin. Je sais pas si d'ailleurs on le voit d'ici, non, parce que je crois qu'il est de l'autre côté de l'hôpital, il me semble.
D'accord.
Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois.
OK. Que... Mm. Mais vraiment pour les personnes non voyantes, c'est celui-ci.
Mm, 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 mm.
D'accord. Et là, je voudrais qu'on parle de Johan un peu, parce que c'est Johan qui a fait tout le lien de...
Oui, ben oui, je sais bien. Oui.
Je l'ai connu au Québec.
C'est ce qui est drôle. Oui, oui.
Et là, il me disait, tu viendras à Toulouse, hein, puis en France. Puis j'ai tenu parole. J'y suis allé. Et là, c'est lui qui a orchestré les deux entrevues que vous allez avoir cette semaine et la semaine prochaine. Mmh. Et comment vous vous êtes connus, Johan et toi?
Alors,
quel genre d'amitié vous avez?
On se connaît depuis très longtemps. C'est un vrai ami. Il a toujours il a toujours été là. C'est quelqu'un que j'ai connu. Alors moi je l'ai plus connu à Paris en fait, parce qu'en fait on a fait un peu les mêmes écoles. Je pense que d'ailleurs il y a un certain nombre de choses que j'ai dû te dire aussi bien là que dans qu'au début de l'entretien qui ont dû se recouper, puisque lui effectivement on était dans la même école à Lille, mais on n'était pas du tout dans la même classe, on se connaît. Puis bon, bah c'est vrai qu'on il a 3 ans de plus que moi, donc effectivement 3 ans quand t'es gamin, c'est 3 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que moi je savais qu'il existait à Lille. Je savais aussi après qu'il était parti à Paris, et moi j'ai vraiment fait sa connaissance à partir du moment où je suis arrivé à Paris, donc au début des années 2000.
Et bon, vous êtes connu, vous êtes et ça a toujours duré.
Ah bah c'est un ami de longue date, c'est un de mes plus vieux amis. Ça c'est certain. Hein, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît maintenant. On fonctionne tout à fait différemment, mais Dieu sait qu'on est amis, ça c'est certain.
Et vous vous côtoyez souvent, parce que Johan vient de temps en temps.
Quand il vient à Paris, en général, il vient ici. Oui. Et il sait que il fait partie de ceux à qui je peux prêter les clés de mon appart pendant que je suis pas là, et c'est déjà arrivé certaines fois. Je sais que tout va bien se passer, donc il y aura pas de problème.
Et toi, tu vas à Toulouse aussi des fois?
Oui. Alors moi, c'est vrai que je vais à Toulouse aussi. Oui. Mais j'y vais d'ailleurs dans pas très très longtemps.
Et tu y vas en train, en avion?
Oh non, moi j'y vais en covoiturage. Ah, d'accord. En covoiturage. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Blablacar, donc il y a un système de covoiturage. Je sais pas si vous l'avez au Canada. Et
d'après moi, ça ressemble peut-être à Amigo Express.
Alors je sais pas, c'est au Canada, ça?
Ouais, c'est au Canada. D'accord, c'est covoiturage.
D'accord.
Oui.
Donc moi je fais beaucoup de covoiturage. Je prends le train de temps en temps, mais c'est vrai que je suis quand même amené pas mal à bouger avec. Je te parlais du Rotaract tout à l'heure notamment, et puis avec des amis, et du coup j'ai fait connaissance avec des amis qui habitent un petit peu partout en France, donc ça m'arrive effectivement de me déplacer quand même régulièrement. Donc que ce soit à Toulouse ou ailleurs, je peux y aller en covoiturage, je peux y aller en il y a des autocars maintenant qui permettent de relier des longues distances. Donc moi ça me fait absolument pas peur d'aller chercher un bus à 11h du soir et de faire 700 ou 800 kilomètres de nuit, par exemple. Mm-hmm. Ça me fait absolument pas peur, ça.
Et avec le covoiturage, ça se passe bien aussi?
Oui. Mm-hmm. Franchement, ça, j'ai fait de superbes rencontres dans les blablacars que j'ai pu faire. Hein. J'ai vraiment croisé tout type de personnes, et mon handicap n'a jamais posé problème, pour le coup.
C'est super. Donc c'est ça peut être un bon moyen de voyager à moindre coût.
Ah oui.
Des fois aussi avec moins de d'arrêts, j'imagine, parce que c'est les conducteurs qui décident des arrêts qu'ils vont faire.
Voilà, c'est ça. Après, ça dépend de la distance que tu fais, ça dépend du temps qui t'est imparti. Si là, par exemple, c'était le cas, j'étais à Lille il y a une quinzaine de jours maintenant. Oui, j'y étais sur la journée. Là, j'y suis allé en train. C'est 1 heure de train. J'aurais pu le faire en Blablacar aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, je l'ai fait en train. Mais là, pour le prochain week-end que je me fais, c'est un week-end d'association, un week-end Rotaract. Décidément, je pars en covoiturage. Mais le covoiturage, tu le trouves 2-3 jours avant. Hein, donc voilà, il faut savoir être flexible aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un covoiturage annulé 2-3 heures avant le départ.
Oui, ça c'est
j'en ai retrouvé embête, hein. Un, et c'est vrai que parfois tu te dis bon, j'aimerais être vite débarrassé de ça, d'avoir trouvé le trajet pour pouvoir
focuser sur autre chose,
pas, hein. Voilà. Mm-hmm. Bon, après tu vois, il y avait pas mort d'homme non plus.
Et si en plus ça permet de faire des belles rencontres.
Ah oui, moi c'est ça a vraiment très très souvent été le cas dans les covoiturages que j'ai pu faire. Hein. Ça fait 7 ou 8 ans que j'utilise ce système. J'ai dû faire, je pense, bien 200 covoitures. Je dois avoir passé la barre des 200 covoiturages maintenant.
Oh là là, ok, oui. Quand même.
Et
là.
Oui, et quand et... même là, oui.
Et c'est beaucoup. C'est oui, beaucoup oui, quand
c'est
même.
Beaucoup, c'est beaucoup, effectivement.
Ça fait un paquet de monde.
Ça me gêne pas de faire un Paris-Nice en covoiturage, hein, je l'ai déjà fait. Non, c'est vrai, faire 900 kilomètres... ouais, j'ai déjà fait même 2-3 fois d'ailleurs.
Et là là, ça, mais faut quand même tomber sur des personnes.
Alors, si tu veux, ce qui se passe, c'est que sur ce genre de site, les conducteurs sont notés, donc t'as des avis. Donc effectivement, ouais. Tu peux aller regarder si tu vois que la note est de 4,8 sur 5. Bon, bah là, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Tu réserves le trajet tout en tenant compte de la capacité qu'il a à emmener des bagages, ça aussi.
Oui, ça c'est des détails importants.
Ça fait pas. Bah oui,
mais
c'est sûr.
Mais peuvent influer sur le choix.
Sur le choix du conducteur ou de la conductrice que tu vas choisir. Absolument.
Mm-hmm, tout
ouais,
à fait.
Ouais.
Mais une chose est certaine, c'est que bon, grâce à Johan, on s'est rencontrés aujourd'hui, on a fait l'entrevue. Moi, j'ai trouvé ça super agréable, super instructif aussi. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps et de m'accueillir chez toi et de me faire certaines révélations puis certains éclaircissements aussi pour les gens en général, je pense pour la population des non-voyants en général, et je pense bien sûr à ma patrie québécoise hein, qui eux aussi vont en apprendre.
Alors, je salue d'ailleurs. Salut le Québec si vous nous écoutez.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com _. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
À notre prochaine émission, nous poursuivons notre voyage en France avec une personne habitant en Europe qui s'intéresse au sport, même s'il se joint au Canada, Jérémy Rivière, à notre rendez-vous du 18 octobre.